Amen. Gloire à Dieu pour ces chants. Oui, crois à sa miséricorde. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. C'est ce que nous venons de chanter. C'est la conclusion de mon message. Donc c'est parfait. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Crois à sa miséricorde pour toi. Pour toi. Oui, ce soir, j'aimerais parler du Dieu miséricordieux, du Dieu vivant, le seul, le vrai, l'unique, ce Dieu miséricordieux pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on prenne un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Luc chapitre 10 au verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Va et toi fais de même. Ce soir, j'aimerais que l'on s'arrête sur ce passage, oui, pour parler de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qu'il a pour chacun d'entre nous, cette miséricorde qui est vraiment pour chacun, qui inclut tout le monde entier. Personne n'est exclu, personne n'est mis de côté. Il n'y a pas de préférence, Dieu ne fait pas de préférence, il ne fait exception de personne. Sa miséricorde est pour chacun d'entre nous. Et un homme a pu dire cela, qui c'est intéressant par rapport à la miséricorde de Dieu, il a pu dire dans ce mot il y a misère et corde. Et la miséricorde, c'est le fait que Dieu, dans notre misère, nous envoie une corde pour nous en sortir. J'ai trouvé cette image intéressante. Et ce soir, au travers de ce passage, j'aimerais, oui, qu'on puisse réaliser l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous, qu'on puisse saisir l'amour de Dieu et sa miséricorde, afin de sortir de notre misère et vivre vraiment, véritablement, concrètement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, premièrement, on voit cet homme, un docteur de la loi. C'est un homme religieux, un homme qui connaissait très bien une partie de la Bible, l'ancienne partie, l'Ancien Testament, et qui connaissait bien la loi de Moïse. Et cet homme va venir vers Jésus, il nous est dit, pour le mettre à l'épreuve. Ça peut paraître étonnant, un homme religieux, un homme qui connaît, voilà, les Écritures, ce que Dieu a communiqué aux hommes pour le connaître, cet homme religieux va venir pour mettre à l'épreuve Jésus. Et on voit déjà, dès ce premier point, combien il y a une très grande différence entre la religion et Dieu, entre ce que Dieu veut pour nous et la religion. Et j'aimerais vous le dire autrement, ne soyez pas choqués, mais Dieu est contre la religion. Dieu n'a jamais voulu de religion. Dieu n'a jamais dit, voilà, il y aura une religion. Premièrement, il y aura le judaïsme. Deuxièmement, il y aura le christianisme. Troisièmement, il y aura isme. Non. Il n'y a pas de, pour Dieu, il n'y a jamais eu, il ne veut pas de religion, et il a été toujours contre cette manière de voir notre relation qu'on peut avoir avec lui, cet esprit de religiosité, qui dégoûte, qui fait du mal, qui écœure. Parce que la religion, quand on la voit aujourd'hui, elle ne donne pas envie à qui que ce soit, à personne, et à moi le premier qui suis en formation pour devenir pasteur. La religion, ça ne m'intéresse pas et ça n'a jamais intéressé Dieu. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on ait une façade, comme ces hommes à l'époque. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles avaient une façade. Et Jésus va dénoncer à plusieurs reprises dans les évangiles cet esprit d'hypocrisie qu'il y avait là. Ces hommes avaient cette apparence de religiosité, ils allaient au temple, ils priaient, ils adoraient Dieu, ils faisaient des sacrifices, mais ils n'y avaient pas le cœur. Ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Et c'est là l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut vraiment une relation avec chacun d'entre nous, une relation proche de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui a conduit ces hommes à ne pas reconnaître Jésus, à ne pas reconnaître Jésus comme étant le sauveur du monde, celui que Dieu a envoyé pour justement établir cette relation, celui que Dieu a envoyé pour que nous puissions saisir la vraie vie. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Voilà cette question qui a été posée par cet homme qui voulait mettre à l'épreuve Jésus. Alors il en faudra plus pour mettre à l'épreuve Jésus, parce que Jésus, dans sa grande miséricorde, va quand même orienter cet homme. Et peut-être que ce soir, vous êtes venu aussi avec des questions. Il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a des questions, parfois, on peut être... Il y a peut-être des choses qui sont mauvaises dans notre cœur. Cet homme était mal intentionné. Mais il y a des bonnes questions. On peut se poser des bonnes questions, des questions importantes. Cette question est quand même importante. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Il y a vraiment une question importante. La vie éternelle. La vie après la mort. Il y a des questions comme cela qui peuvent venir dans notre cœur quand on y réfléchit. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et qu'on se l'avoue ou pas, on a tous dans notre cœur cette conviction que nous vivrons éternellement. Mais où il peut y avoir comme cela beaucoup de questions. Et il peut y avoir des questions qui viennent comme cela. Quel est le but, quel est le sens de cette vie ? Que se passe-t-il après la mort ? Pourquoi suis-je sur terre ? Il peut y avoir toutes sortes de questions comme cela existentielles et qui peuvent venir nous tourmenter. Parce qu'on ne peut ne pas trouver de réponse à ces questions-là. Ça me fait penser à ce témoignage de cette jeune fille qui durant son adolescence, cherchait. Et elle avait dans son cœur comme cela ses pensées. Elle réfléchissait au sens de la vie, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et elle en était même tourmentée. Elle en était jusqu'à être tourmentée et avoir des angoisses réelles. Dans son cœur, elle se posait toutes sortes de questions comme cela et elle ne trouvait aucune réponse. Elle s'est tournée vers ses parents et son père était anarchiste. Le slogan de son père, c'était « Je n'ai ni Dieu ni maître ». Je n'ai ni Dieu ni maître. C'était vraiment sa conviction. Et il marchait, c'était son mode de vie. Mais à côté de ça, il y avait de sérieux besoins, de sérieux problèmes dans sa vie. Il était attaché à l'alcool et il y avait une dépendance, un esclavage qui était là. Je n'ai ni Dieu ni maître, mais il était esclave de ces choses-là. Et sa mère était voyante, elle a tiré les cartes, et elle avait un temps durant sa vie, ce projet de monter un cabinet de voyance. Elle était comme cela dans l'occultisme. Mais à côté de cela, il y avait aussi dans son cœur de sérieux problèmes. Elle suivait une psychanalyse pour se faire soigner de toutes sortes de questions comme cela aussi, de vide dans son cœur, de soucis qui ne sont pas réglés. Et cette jeune fille va comme cela se tourner vers ses parents, mais ne va avoir aucune réponse. Sa sœur, sa grande sœur, pour couronner le tout, Pour terminer, le contexte de la famille était musulmane et sérieusement engagée. Elle suivait cette religion sérieusement et recherchait, pensait là aussi trouver une solution. Mais il y avait réellement aussi dans son cœur un vide. Et dans le cœur de ses parents, de sa grande sœur, eh bien, il va vraiment se passer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'alors que cette petite fille va poser ses questions, sa mère va se tourner vers une amie qui lui avait parlé de Jésus-Christ, comme on en parle ce soir. Et cette mère va être à ce moment-là touchée, convaincue dans son cœur que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est capable de la libérer, de répondre véritablement à ses besoins. Et cette mère, à ce moment-là, quand elle va entendre le message de l'Évangile, elle va être profondément convaincue de péché. Elle va demander pardon et va commencer à marcher avec Dieu. Par la suite, c'est son mari qui va voir la transformation dans le cœur de sa femme et qui va réaliser que, oui, il est celui qui se disait n'avoir ni Dieu ni maître, mais qui voyait concrètement son épouse changer, être comblée, être transformée, libérée de toutes les choses mauvaises dans lesquelles elle pouvait être. Parce que l'occultisme n'était plus là, parce que la psy qu'elle pouvait suivre n'était plus là non plus, libérée. Et ce père va pouvoir réaliser qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant. Son père va être aussi touché, convaincu dans son cœur par le message de l'Évangile. Et il va faire une expérience, lui aussi, forte et concrète avec le Seigneur. Il va réaliser que, oui, Jésus est le maître. Et il va pouvoir dire, je n'avais ni maître, mais quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Tout a changé. Et l'alcool n'a plus été un problème pour lui. Il en a été délivré. Et par la suite, c'est pour terminer sa grande sœur, qui était dans, musulmane, qui était dans l'islam, qui va être aussi touchée, convaincue, par plusieurs expériences qu'elle va faire, et qui va être amenée à se convertir à Jésus-Christ. Et ces trois personnes vont ensemble s'engager, passer par les eaux du baptême. Et cette jeune fille qui était là voit, du coup, ce changement, ce grand changement dans la vie de sa famille, et va pouvoir avoir une réponse flagrante à ses questions, va pouvoir saisir quel est le sens de sa vie. Oui, parce que quand on recherche Dieu, on le trouve. Et quand une personne est sincère, quand elle cherche véritablement Dieu, elle le trouve. Et je vous dis cela parce que vous pouvez être ici dans ce lieu ce soir avec des interrogations. Mais Dieu aime cela. Et Dieu aime quand on a des interrogations sincères, quand on le recherche sincèrement. Et quand on a ces interrogations et qu'on le cherche lui, on le trouve. Et cette jeune fille, pour terminer, l'a trouvée. Elle l'a trouvée, elle l'a acceptée dans son cœur et elle a pu par la suite aussi passer par les eaux du baptême. Et cette jeune fille qui a grandi, je ne veux pas la mettre mal à l'aise parce qu'elle est ici dans ce lieu. Alors je ne dirai pas son prénom, mais juste je dirais que c'est ma femme. C'est pour vous dire que quand même, ce n'est pas des expériences d'il y a 1000 ans que je vous raconte, mais c'est des expériences qui sont là tout près de nous. Et Dieu est capable encore aujourd'hui de faire les mêmes choses. Ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas des belles paroles qu'on vous raconte, mais c'est la réalité de ce que l'on peut vivre quand on se confie en Dieu, quand on s'appuie sur lui. Alors à cette question, Jésus-Christ, c'est étonnant, a répondu par une autre question. Mais pour orienter cet homme, la réponse a été, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et Jésus-Christ a orienté cet homme vers la parole de Dieu, la parole vivante. Cette parole, la Bible, est actuelle, elle répond à tous nos besoins. Et ce soir, Dieu est celui qui veut nous orienter à nous tourner vers sa parole. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit dans sa parole? As-tu lu la parole de Dieu? Elle est la vérité. Et elle seule détient toutes ses réponses à cet avenir après la mort, à ce qu'il se passe après la mort, mais à ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, à ce qu'il attend de chacun d'entre nous, aujourd'hui et maintenant. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et ce docteur de la loi qui était donc bien au courant, parce qu'il était un grand érudit de la parole de la Bible, va pouvoir répondre avec quand même justesse. Et il va savoir saisir qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu. Et il va répondre à Jésus, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il va pouvoir répondre en donnant cette loi qui est extraordinaire, cette loi qui est merveilleuse. Cette loi est appelée dans la Bible la loi royale. La loi royale, cette loi résume très bien tous les commandements de Dieu et ce qu'il nous demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu mettras Dieu en priorité dans ta vie, tu le rechercheras, lui seul d'abord, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Parce que c'est en le recherchant comme cela, de tout son cœur, qu'on le trouve. Et c'est en le recherchant et en le mettant à la première place qu'on lui est agréable. Et comme le disait tout à l'heure Michael, c'est en le mettant à la première place, oui, qu'on est comblé et qu'on reçoit tout ce dont on a besoin par la suite. Mais il est dit aussi, une deuxième étape dans cette loi, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette loi, si elle était mise en pratique, si cette loi était là dans les lois de notre pays, le monde serait mais complètement différent. Le monde serait complètement changé. Si en France on avait cette loi, croyez-moi, il y aurait beaucoup moins, mais beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de soucis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette loi, quand on la met en pratique, quand on met Dieu en premier, quand on aime son prochain par la suite, parce qu'on réalise l'amour que Dieu a pour nous, cette loi change complètement notre manière de vivre, notre quotidien. C'est pour cela que Jésus va lui dire « Fais cela ». Et tu vivras. Fais cela et tu vivras. C'est étonnant et interpellant la réponse de Jésus. Fais cela et tu vivras. Cet homme, ce docteur de la loi, est debout, vivant devant Jésus. Il est en train de lui parler. Mais Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Et il lui dit en quelque sorte, tu es là mais tu n'es pas en train de vivre, tu n'es pas dans la vie. Fais cela et tu vivras. Et il est important de réaliser cela, que quand on n'a pas Dieu dans son cœur, quand on n'a pas Jésus dans son cœur, on vit dans les ténèbres. La Bible nous dit qu'on est mort spirituellement, qu'on est séparé de Dieu, qu'on est aveuglé. Fais cela et tu vivras. Mets Dieu en premier dans ta vie, recherche-le de tout ton cœur. Fais cela et tu vivras. Il y a un autre homme comme cela qui a, à un moment donné, posé cette question aussi à Jésus, qui est venu devant Jésus et tourmenté par cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et c'est une histoire très similaire avec celle-là. Et Jésus a pu répondre à cet homme, à ce jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. La même réponse, les mêmes commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Mais il lui a dit, si tu veux entrer dans la vie. Est-ce que ce soir vous voulez entrer dans la vie? Est-ce que vous voulez saisir la véritable vie, celle que Dieu veut pour vous? Il y a une vie qui est toute différente de cette vie sans Dieu, de cette vie où on est là, où on s'épuise, où on peut chercher, travailler, être bien physiquement, bien socialement, avoir une bonne situation. Mais il y a une vie qui est là pour nous. La vie, la vraie. Est-ce que ce soir vous voulez entrer dans la vie, dans cette vie? Pour cela, c'est tout simple. C'est tout simple de rentrer dans cette vie. Et cette vie nous est proposée. Dieu veut que nous puissions recevoir sa vie. Dieu veut que nous puissions recevoir cette vie faite de bénédictions. Cette vie où nous sommes en paix avec lui. Cette vie où nous sommes pardonnés. Cette vie où nous vivons une paix immense, une joie immense de lui appartenir, d'être en relation avec lui. De vivre ses commandements, de lui obéir, d'être restauré. Oui, il y a comme cela une vie pour chacun d'entre nous. J'ai noté trois étapes afin de saisir cette vie. La première, c'est réalise que tu es pécheur. Réalise que tu es pécheur. Cet homme, ce docteur de la loi, alors qu'il va comme cela donner ce bon commandement à Jésus, Par la suite, il va insister et il nous est dit, il répondit et il dit à Jésus, mais lui voulut se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Lui voulut se justifier. Il est important de réaliser que nous sommes tous pécheurs, tous séparés de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et cet homme a comme cela voulu se justifier, croire qu'il n'avait pas besoin, croire qu'il, pour lui il était en règle. Et Jésus va lui donner une parabole très simple pour lui faire comprendre qu'il a pu manquer à un commandement. Justement, celui qu'il venait de donner, aimer son prochain comme lui-même. Il va lui faire réaliser qu'est-ce que la véritable miséricorde. Et il va lui donner cette parabole que nous avons lue sur le bon samaritain. Cet homme qui a pu soigner, cet homme qui s'était fait rouer de coups et qui était là à demi-mort au bord d'un chemin. Ce bon samaritain ne va pas accuser, ne va pas juger, mais va venir vers cet homme et va le soigner, va le prendre et payer pour lui. Et il y a là vraiment l'image de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Oui, il va lui faire comprendre qu'il a manqué à un commandement et qu'il est pécheur. Mais il va lui faire comprendre sans le condamner, sans mettre un poids sur lui, simplement en lui montrant cette parabole. Et il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit ce que Jésus-Christ a voulu véritablement apprendre à ces hommes qui étaient religieux, qui étaient aveuglés. Il se trouve dans Matthieu 9, 13, et il a pu leur dire « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde. » Et cet homme, Jésus a voulu donner à cet homme cet enseignement, cette leçon, apprendre la miséricorde. Parce que ces hommes, à cause de la religion, étaient devenus insensibles, étaient devenus légalistes et ne voyaient même plus les besoins qui étaient là autour d'eux, n'étaient plus sensibles à ce que Dieu voulait. Alors la première chose à faire afin de rentrer dans cette vie, c'est d'abord de ne pas faire l'erreur de cet homme, de ne pas se croire juste, mais de réaliser qu'on est pécheur, qu'on est séparé de Dieu à cause du péché, qu'on a tous péché et que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est crois à la miséricorde de Dieu. Crois à la miséricorde de Dieu. La miséricorde, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut la définir voilà, comme étant cette corde que Dieu envoie dans notre misère pour nous en sortir, mais j'ai pris la définition que donne le Larousse. Et c'est très intéressant parce qu'il peut y avoir des définitions dans le Larousse qui sont pas toujours très claires par rapport à ce que peut dire la Bible, mais j'ai trouvé cette définition très pertinente. Voilà ce que dit le Larousse de la miséricorde. C'est donc la pitié qui pousse à pardonner à un coupable. À pardonner à un coupable. La pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Un pardon accordé par pure bonté. Et il était noté aussi dans les définitions de la miséricorde, c'est un attribut de Dieu. Un attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité, qui explique le plan que Dieu avait et a pour sauver l'humanité entière. Un attribut de Dieu, voilà ce que dit le Larousse. J'aimerais dire que le Larousse, à ce moment-là, dit la vérité. Véritablement, c'est un attribut de Dieu. On le retrouve dans la parole. Dieu est miséricordieux. Il est appelé dans la parole de Dieu, la Bible, le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. Auprès du Seigneur, la Bible nous dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Voilà ce qu'il y a auprès de Dieu ce soir pour chacun d'entre nous. Grâce, la Bible nous parle des entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Les entrailles de la miséricorde de la miséricorde de notre Dieu. C'est là une expression forte qui nous parle de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Oui, cet immense amour. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement à chacun d'entre nous. Sans condition, sans aucune condition. c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas simplement un sentiment, mais c'est ce qu'il a manifesté. C'est ce qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous. La miséricorde de Dieu, il l'a manifesté en envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. La religion passa outre. La religion passa outre. Quand on reprend cette parabole que a donnée Jésus à cet homme religieux, voilà, il a parlé d'un sacrificateur, d'un lévite, des hommes religieux. La religion passa outre. Mais la religion n'est pas Dieu. La politique, on pourrait dire, passa outre. La science de ce monde, les sages de ce monde, les penseurs, selon ce monde, sont passés outre, n'ont pas su répondre aux besoins profonds du cœur de l'homme. Mais ce soir, Dieu veut véritablement répondre à tes besoins, répondre à ton besoin précis. Il peut y avoir, comme je le disais, des questions qui tourmentent, qui sont là, mais il peut y avoir des besoins précis, une situation de détresse, une souffrance qui est endurée. Il peut y avoir toutes sortes de situations et Dieu n'est pas insensible dans sa miséricorde. Il a déjà pourvu, il a tout accompli et ce soir il veut vraiment manifester sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Oui, crois-le, crois à sa miséricorde. Et Jésus, lui, n'est pas passé outre. Jésus n'est pas passé outre. En voyant notre misère, en voyant notre besoin, notre souffrance, il n'est pas passé outre. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus est Dieu. Dieu fait homme et il est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a pris sur lui nos péchés, nos maladies et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'est pas passé outre. Il s'est arrêté, il s'est chargé. Oui, il a pris sur lui notre condamnation. Quand on croit à sa miséricorde, quand on croit à son œuvre à la croix, on est déchargé, pardonné, restauré. C'est ce que Dieu veut. Ce soir, crois sa miséricorde, crois-le. Il n'y a pas, comme je le disais, d'exception. Peut-être que tu en es à un point où tu as commis certaines choses que tu sais qui sont mauvaises, que Dieu désapprouve complètement, des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Peut-être que tu en es là et que tu te dis non. Pour un temps, le pardon, ce n'est plus pour moi. Peut-être que tu ne crois pas au pardon de Dieu ce soir, mais Dieu veut véritablement te dire ce soir, crois à sa miséricorde. Il y a ce pardon qui est là véritablement pour toi parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix, il a tout accompli. Et le troisième point, pour terminer, après avoir vu le fait de réaliser qu'il nous faut être sincères et conscients, par rapport à notre situation, d'être pécheur séparé de Dieu, il y a ce deuxième point de croire à la miséricorde de Dieu, de croire et de réaliser ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous à la croix. Le troisième, c'est simplement de confesser nos péchés et de les abandonner, de nous repentir. Jésus-Christ, les premières fois qu'il a commencé à prêcher, a pu dire, et il nous le dit encore ce soir, repens-toi, repens-toi, repentez-vous, convertissez-vous. Voilà les paroles que Jésus nous donne. Se repentir sincèrement, c'est oui, demander pardon à Dieu, c'est réaliser qu'on a offensé, blessé profondément Dieu, mais c'est avoir ce vif dégoût et abandonner, se détourner de cette mauvaise voie dans laquelle on est pour se tourner vers Dieu. Pour se tourner vers le chemin de la vie, vers cette vie faite de bénédictions, saisir cette vie que Dieu veut pour nous. Oui, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Voilà ce qu'il nous faut pour obtenir miséricorde ce soir. Celui qui avoue ses transgressions, ses péchés et les délaisse. Le psaume 32, verset 5, nous parle de l'expérience qu'a pu faire un homme, cette expérience qui est là pour chacun d'entre nous. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Quelle grâce! Quelle miséricorde, quelle faveur nous pouvons recevoir de la part de Dieu en abandonnant, en demandant pardon, en nous repentant sincèrement. Oui, ce soir, il y a cette question. Veux-tu entrer dans la vie? Veux-tu entrer dans la vie que Dieu a pour toi? Veux-tu entrer dans cette vie faite de bénédictions? La démarche est simple, nous pouvons tous la saisir. Et ce soir, il n'y a, je le répète parce que je l'ai à cœur, pas d'exception. Pas d'exception. Et qu'on soit jeune, adolescent, je parlais de cette jeune fille qui est devenue grande, mais qui était, durant son adolescence, tourmentée, qui était tourmentée par des questions sur la vie, la mort, elle ne savait pas se positionner, mais qui a su un jour saisir que ce n'était pas la foi de ses parents, que ce n'était pas la foi de l'église où elle était, mais qu'il fallait faire à un moment donné un choix concret, un engagement, une décision, et que c'est cela qui a tout changé. Qu'on soit donc adolescent, jeune, qu'on soit plus âgé, nous avons tous ce choix. Veux-tu entrer dans cette vie? Veux-tu entrer dans cette vie que Dieu te propose ce soir? Veux-tu recevoir la restauration, la guérison? La miséricorde de Dieu est pour toi. Crois-le. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Oui, non pas en apparence, non pas avoir cette apparence de religiosité, non pas être loin de toi, mais vraiment être prêt ce soir et te dire toute notre reconnaissance. Éternel, tu es ce Dieu grand, vivant, tu es ce Dieu puissant qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Éternel, dans ton immense amour, oui, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu es venu sur cette terre et tu ne désires pas que nous périssions, tu ne désires pas que nous restions dans cette mort spirituelle, mais tu désires que nous t'appartenions. Et je te prie maintenant de, Seigneur, agir dans les cœurs, de manifester ta puissance par ton esprit et je te prie de restaurer, Seigneur, d'éclairer, d'apporter, Seigneur, ta lumière, Seigneur. Je te prie de toucher maintenant. Tu sais agir, tu sais, Seigneur, et tu nous as parlé déjà maintenant, ce soir. Je te prie vraiment, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions chacun d'entre nous prendre la bonne décision, que nous puissions mettre en pratique ta parole, que nous puissions t'obéir, oui, te mettre à la première place, te rechercher, afin de saisir la vie. Seigneur, je te prie de bénir chacun ici présent, afin qu'il puisse saisir cette vie au nom de Jésus. Amen.